La philosophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra.
F comme
Foucault, Faye,
Fauconnier, Fénelon,
Fermine,
Freud,
Flaubert,
François Furet, Friedman,
Foulon,
Faust,
La Fontaine,
Faulkner,
Brigitte Fontaine,
Fellini,
Madame de Lafayette,
Anne Frank, Franz Fanon,
Cynthia Fleury.
F comme famille, je vous ai.
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, le soleil, bonjour.
Dans la cité idéale qu'ils évoquent, Platon et Aristote, à sa suite, semble oublier que quoi qu'on fasse, nous naissons dans une famille. Et que c'est déjà une petite cité en effervescence, avant même d'être ou de devenir des personnes, et plus tard des citoyens, tentant d'être éclairés. On peut aussi naître ou grandir sans famille, ou famille à demi, être retiré de sa famille ou être élevé par ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. À quelle famille appartiendrait le philosophe? On dirait qu'il a rompu les liens, il serait de la famille de celles et de ceux qui n'en ont pas, qui observent à distance, qui seraient de l'humanité sans y appartenir tout à fait.
Mais qui ne pense pas, dans l'intervalle où il ou elle passe de sa famille à ce long chemin où se chercher soi-même? Quel être en devenir peut faire l'économie de sa propre pensée à ce moment-là, si périlleux?
À ce propos, dans la série Malcolm,
que j'évoquais dans la chronique précédente,
la position de cet enfant, de ce personnage, qui de loin en loin, ou plutôt de proche en proche, commente souvent avec un sourire fataliste l'action en cours, ressemble beaucoup à celle du philosophe. Malcolm observe et commente comme s'il n'appartenait pas, comme s'il existait en même temps en dehors, tout en se faisant une raison d'en faire quand même partie de cette famille. Cette famille où rien ne semble insurmontable. Les conclusions de l'affaire, le délibéré en revient à la famille elle-même sous la haute autorité de la mère, qui semble avoir commis la pire des folies en mettant au monde ses quatre marmots, en assumant, il est vrai, encore presque toutes les tâches, la série date un peu, et de surcroît celle de maintenir la paix, la sécurité et de faire cesser la guerre. Parce que la guerre est là à tout moment dans cette famille. À tout moment, elle risque de se déclencher. Et puis, avant que toutes et tous ne se massacrent entre eux, quelque chose survient. Comme un rappel à l'ordre intérieur, un sourire qui l'emporte, une manière déguisée de s'être fait peur et de reprendre quand même et malgré tout ensemble le chemin.
Il me vient alors subitement en mémoire une autre série télé dont celles et ceux de mon âge ou alentour la cinquantaine se souviennent peut-être aussi. Zora Larousse. Une sorte d'enfant sauvage, libre et solitaire, sans famille, entourée d'une bande d'autres enfants plus ou moins orphelins dont elle était la mère substitutive et la chef, Zora Larousse, Zora libre et farouche, qui tenait tête aux gendarmes, aux malfaisants, aux bien-pensants sur les chemins, vivant et se regroupant le soir dans les arbres, dans des cabanes, avec sa famille de gamins.
Entre les aventures libres de Zora, la solitaire, et sa troupe de joyeux enfants, tumultueux, libres et sauvages, et celle tumultueuse de la famille de Malcolm, vivant dans une maison, avec son quotidien, l'école, le quotidien de la famille, les repas, la maison à ranger, etc. Bref, entre cette vie de plein air et cette vie de maison, j'avoue aujourd'hui ne pas savoir à qui donner ma préférence. Je me souviens qu'enfant, j'aimais m'endormir dans la maison de famille. En lisant un Tintin ou un Astérix ou encore un album de Spirou et Fantasio tiré d'une vieille armoire. J'aimais aussi et je rêvais souvent de m'évader, le jour ou la nuit, et de mener bien vite ma propre vie, ma propre existence, en allant voir tout seul ce qui se passe là-bas, tout au bout de la rue. Je ne sais à quel endroit il faut trancher. J'en connais qui fondent des familles la trentaine passée, d'autres qui, à 47 ans ou à 82, cherchent encore à se remettre de ce qu'ils ou elles ont subi en famille, à se réparer, tout en voulant en prendre soin ou en ne pouvant pas s'empêcher de soigner leurs propres parents, leurs pères et mères vieillissants, ou de s'occuper de leurs lointains petits-enfants. Non, je ne saurais dire, je ne saurais faire le partage, puisque d'autres encore se font une famille d'une religion, d'un parti, d'une idéologie, d'une croyance ou d'un combat qu'ils jugent juste, d'un club de jeux de rôle ou d'un groupe de passionnés pour telle ou telle activité ou encore de compagnons de maladie ou de handicap. Ils se sont fait une famille.
De familles et d'autres, encore plus solitaires, s'en font des artistes passés qui sont pour eux un phare. Ils se font une famille de leur bibliothèque qui les guide dans leur vie et leur création.
Je m'appelle Rémi et je suis sans famille, pourrait chanter beaucoup d'entre nous, au fond de leur cœur blessé mais toujours vaillant, et crier en même temps « Famille, je vous hais ». Ou famille, tu m'as toujours manqué et je t'ai dans la peau et tu me manques tant. F comme famille, fatalité, farce, fêlure. F comme il faudra bien te couvrir. Titre d'un magnifique livre du magicien clown, écrivain et psychologue pour enfants, Howard Button, aujourd'hui un peu oublié.
Il faudra bien te couvrir, oui. Et que le bruit des avions qui, ces derniers temps, s'amplifient dans nos ciels ne vienne pas couvrir trop vite, lui, avec ses furieuses allures guerrières, le besoin de lien, son absence douloureuse ou son excès emprisonnant, dans tous les cas, cette voix chancelante est perdue, ivre dans sa demande d'amour aussi bien que dans son aspiration absolue à obtenir la plus légitime et difficile liberté de tous les enfants nés ou à naître, et qui, ici comme ailleurs, se demandent encore et se demanderont toujours ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, par le geste inconsidéré ou terriblement programmatique de leurs parents, qui se posent tout autant que vous, sachez-le, enfants, la même et sempiternelle question.
Non pas seulement pourquoi cette vie-ci, donnée, comme un bien à chérir avec toute la reconnaissance obligatoire, mais pour cette vie injectée, transmise comme un affront sous couvert de famille, avec laquelle faire seul à seul, en définitive, tout le restant de sa vie. Car c'est bien d'une union que naît toute vie humaine. Et à quelle aune la progéniture peut-elle en vérité en mesurer la quantité ou la qualité d'amour qui en est à la fois le liant et l'origine indiscutée et cependant discutable. Ce n'est pas la vie en général qui est difficile ou exaltante, c'est bien celle que l'on m'a nommément fourguée, transmise.
Alors on voit les individualités retraverser le voile ou la toile. Ce ne sont plus Tonton ou Tata, c'est Henri ou Jacqueline, tels qu'ils sont, elle et lui en réalité, jusque dans toute leur profondeur d'individus réels et depuis toutes leurs apparences d'êtres humains. C'est peut-être cela aussi la tragédie, que donner la vie ne soit pas absolument et dans tous les cas bel et bon, mais peut-être aussi très gênant et très encombrant, voire absolument regrettable.
Évidemment, pensée et famille, alors, ne font pas bon ménage quand la pensée va s'aventurer chercher dans ces marécages, qui comportent aussi un horizon lumineux, une fine trace de lumière, comme là-bas, au loin dans le Finistère, quand on devine l'océan au crépuscule. On se heurte pourtant à cet endroit au socle le plus profond de la morale et de la religion. Que de cercles, que de confinements, que de douillets oreillers et de puissants barreaux entourent le creuset chéri, la vie bénie, la vie sacrée, absolument et en son nom même prête à commettre pourtant bien des crimes.
Il n'y a pas que chez les mafieux que la famille absout ou condamne définitivement. Chez combien d'artistes, hommes et femmes, cela fut-il cause de rupture avec les leurs, qui osèrent se reconnaître des individus dans leurs pensées et dans leurs pensées atteindre cet endroit qui touche à l'irréconciliable.
Évidemment, sous ces atours-là, le philosophe devient tout de suite beaucoup moins sympathique. Et on se demande comment faire figurer Cioran et de l'inconvénient d'être né en bonne place dans la bibliothèque familiale. Ou même Baudelaire, ou Rimbaud, ou Tristan Tzara, Henri Troyat et sa folle coche, Antonin Artaud et ses crépusculaires vomissures sur la dite famille Apollinaire qui ne cesse d'en appeler à sa mère, en terminant un de ses poèmes par « Travail !» Si on les lit à fond, et tous les poètes russes, et même Victor Hugo, et notre chère Annie Lebrun, et la vie de Camille Claudel, y pense-t-on ?
Enfermé, saccagé de folie dans l'irréparable fracture intérieure de sa vie d'enfant, de femme, et de modèles enchaînés à Auguste Rodin.
Alors que c'est amusant, tant de rues et d'établissements portent leur nom. Collège François Rabelais, lycée Victor Hugo. De quoi se vivre et se reconnaître authentiquement schizophrène avec le soutien et les encouragements de l'espace public.
Mais il est des familles à la Malcolm où la lucidité et la vie de famille ne sont pas entièrement incompatibles. Un brin de folie et d'humour l'emporte toujours, on peut rêver. La raison pour laquelle Œdipe s'est crevé les yeux, c'est peut-être de comprendre soudain violemment ce que c'est que d'être une famille, ce qu'engendrer ou avoir été engendré peut signifier. Œdipe, qui s'est cru si libre et maître de soi en arrivant à Thèbes pour en devenir le roi, s'aperçoit qu'à la naissance son destin était tracé, qu'il ne pouvait s'appartenir, pas une seule fois, seulement dans cette obscurité où il refuse alors tout outrage, et nul ne saura jamais ses pensées, au long de son lent retour vers le silence retrouvé de ses vieilles origines.
chercher, trouver une autre lignée, une autre généalogie plus ancienne, plus impalpable et plus réelle pour soi-même, à soi en propre et plus proche. S'ouvre alors une autre voie, une sorte de retournement où, puisque vie il y a, quelle que soit la manière dont on la reçoit, vie inventée, à réinventer, il y a aussi. Comme si le tragique avait sa part dans cette prise de conscience d'une liberté obtenue par défaut, la vie avec un grand V redescendue de son estrade, devenue cette existence infligée dont après tout je peux tenter de faire autre chose que ce que ma famille, ou Dieu, ou mon parti, ou mes potes, ou mes compagnons de malheur ou de liberté attendent de moi, voire le réclament.
C'est un déchirement, ce n'est plus la vie reçue, c'est la vie qu'on emporte, comme on emporte le morceau. Quelque chose qui au début ne ressemble à rien, mais qui n'aura pas son pareil. Et puisque vous l'aurez voulu, se démarquera de tout, si j'en ai l'envie et la volonté. Quel sacrilège commettrais-je et quel tort infligerais-je de cette mauvaise soupe qui n'est ni de Dieu ni de ma famille ou destinée à la prolonger, mais d'une bonne vieille farce commise à deux. Je peux faire quelque chose de tout à fait unique ou d'absolument banal, ça revient presque au même.
La vie en moins ou en plus, c'est selon, à la Malcolm ou à la Zora Larousse. J'ajuste mon malheur pour en faire une sorte de bonheur sans nom, sans préalable, sans modèle. Je vous retourne le pari dans la gueule. Vous qui pensiez m'avoir fait, je me défais de vous. Pour tout refaire et tout réinventer, même au sein d'une autre famille. Même bouddhiste, même moine zen. La reconnaissance de toute souffrance semble un préalable inconditionnel à toute prise de liberté. Ou sa dénonciation, mais alors gare. Les armes sont tirées à couteau ouvert.
Cela me rappelle cette pièce si drôle, si vivante, impertinente et insolente à ravir, Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger Vitrac. Où un simple enfant, par une sorte de malice débridée, que d'aucuns qualifieraient abusivement de perverse, renverse peu à peu l'édifice familial, en confondant toutes et tous, jusqu'au moindre recoin, au plus ridicule de ses accoutrements. Victor nous terrifie. C'est la pièce d'un surréaliste, mais il nous fait profondément rire aussi.
Un surréaliste, il est vrai, encore une famille, tiens, les surréalistes. Ou pour rester fidèle à tous, chacune et chacun s'en est allé voir ailleurs, si j'y suis. C'est vrai ça, tiens, d'ailleurs. Y suis-je et y serai-je ailleurs? Ailleurs, c'est où ailleurs? Pour de bon, pour de vrai, ailleurs. Allez, hop, ailleurs, quelque part, loin d'ici. En vacances, le train à destination de l'ailleurs, du grand ailleurs, va partir. Attention au départ, attention mesdames et messieurs, attention.
Attention.
La philo-lofi, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.